Alors, pour commencer notre exploration d'aujourd'hui, il faut juste imaginer un instant un établissement pénitentiaire de très haute sécurité.
D'accord, je visualise.
Mais attention, c'est pas n'importe quelle prison. C'est une forteresse colossale, sauf que les prisonniers à l'intérieur, c'est pas des criminels normaux.
Non, c'est plutôt des idées, c'est ça ?
Ouais, exactement. Des idées, des désirs inavouables, des instincts super primitifs, des souvenirs parfois très très sombres. Et ces détenus, ils ont une seule obsession. S'échapper.
Ce qui serait catastrophique pour le système.
Voilà. Une évasion violente, ça ferait tout exploser. Donc la direction de cette prison, en gros l'esprit humain, doit constamment inventer des stratagèmes de dingue.
Ah oui, des déguisements complexes.
C'est ça. Des masques de plus en plus absurdes pour laisser sortir ces prisonniers en douce, en pleine nuit ou parfois sous forme de génie créatif. Et tout ça sans jamais déclencher la moindre alarme.
Cette image de la prison, elle est excellente pour aborder le sujet. Parce que ça souligne un truc fondamental de notre analyse. Cette forteresse, elle ferme littéralement jamais ses portes.
24 heures sur 24.
Voilà, ces mécanismes de surveillance, de filtrage, ils tournent en permanence. Et en fait, ils façonnent tout. Du plus petit tic nerveux, complètement inoffensif, jusqu'aux plus grandes fulgurances de l'histoire de l'art.
C'est assez vertigineux quand on y pense. Et justement, pour décoder les plans de cette forteresse, on a aujourd'hui une source d'informations phénoménale sous les yeux.
Un glossaire très très exhaustif.
Ouais, un glossaire méticuleux des concepts de Sigmund Freud. C'est une vraie carte au trésor qui compile tout, depuis ses œuvres majeures comme l'interprétation des rêves, l'esquisse d'une psychologie scientifique.
Sans oublier les 5 leçons de psychanalyse.
Tout à fait. Et même son étude clinique ultra audacieuse sur Léonard de Vinci. L'objectif de notre discussion, c'est vraiment de comprendre l'architecture cachée de l'esprit.
Comment on passe de la biologie à la psychologie, en gros.
Exactement. Comment une simple impulsion électrique, une énergie nerveuse dans le cerveau, peut se transformer en un cauchemar absurde ou forger les chefs-d'œuvre de la Renaissance.
Le parcours qu'on va suivre grâce à ces sources, il a une logique implacable. Avant de pouvoir interpréter la poésie d'un rêve ou le sourire de Mona Lisa, il faut soulever le capot.
Regardez le moteur.
C'est ça, observer l'esprit à un niveau purement mécanique. Et c'est ce que fait le texte de l'esquisse d'une psychologie scientifique. C'est fascinant parce que Freud tente d'expliquer l'humain uniquement avec la physique et la neurologie de son époque.
Alors justement, décortiquons ça. Dans ce texte, les neurones, c'est pas juste un tas informe. Les sources parlent d'une division en 3 catégories, presque comme une usine.
Oui, il y a une vraie répartition des tâches.
Il y a d'abord les neurones phi. Si j'ai bien compris, ce sont des vrais passoires. Ils sont totalement perméables, ils servent juste à la perception immédiate et ils retiennent rien.
Rien du tout, la stimulation passe et disparaît.
Ensuite, on a les neurones psy. Eux, c'est les disques durs. C'est là que s'imprime la mémoire, là que les traumas restent coincés. Et enfin, les neurones oméga, liés à la conscience.
C'est bien résumé.
Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est ce qui coule dans cette tuyauterie. Le glossaire parle beaucoup d'une quantité Q. C'est quoi concrètement cette fameuse quantité Q ?
Alors la quantité, ou Q, avec un petit symbole pour les puristes, c'est le carburant du système. C'est l'énergie psychique brute.
Une sorte d'électricité mentale ?
En quelque sorte. C'est une excitation qui entre, que ce soit par un stimulus extérieur, genre on se brûle ou on entend un bruit fort, ou par une pulsion interne, comme la faim.
D'accord.
Et le truc crucial, c'est que notre appareil neuronal déteste cette énergie. Il la déteste. L'esprit cherche par tous les moyens à s'en débarrasser.
Ah bon ?
Il veut s'en débarrasser.
Toujours.
Maintenir un niveau de tension bas, voire nul, c'est le but ultime. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie ou le fameux principe de nirvana.
D'accord. Donc le nirvana, c'est juste le calme plat nerveux.
Exactement. Et cette fuite perpétuelle face à l'accumulation de tensions, ça crée le principe de plaisir. L'accumulation, c'est du déplaisir. La décharge de l'énergie, on la ressent comme du plaisir.
Ok, je vois. Et pour bien visualiser comment cette quantité Q circule dans la mémoire, donc les neurones psy, il y a ce concept de frayage.
Oui, le frayage, c'est central.
En lisant ça, j'ai pensé à une rivière sauvage. Au début, l'eau coule sur la roche. C'est chaotique. Mais à force de passer au même endroit, l'énergie creuse un canyon.
Un sillon physique, oui.
Et la fois d'après, l'eau s'engouffre directement dans ce canyon. Parce que c'est la voie de la moindre résistance. Ça veut dire que nos habitudes, c'est littéralement des canyons creusés dans l'esprit.
C'est une très belle image. L'eau qui creuse son lit, ça illustre parfaitement cette réduction de la résistance entre les neurones. Le canyon est frayé.
Mais c'est très mécanique tout ça, très froid.
Pour que ça reflète la vraie vie avec nos émotions chaotiques, il faut y ajouter un barrage. Parce que si l'énergie filait toujours dans les canyons les plus larges, On serait juste des bêtes sauvages, soumises à nos pulsions primaires en permanence.
Et c'est là qu'intervient le « moi ».
C'est ça.
Voilà, le fameux « moi ».
Le « moi », il agit comme un réseau de barrages et de digues. Son rôle, c'est de dévier le courant, de bloquer l'accès au canyon qui mènerait à une souffrance insurmontable.
Donc il empêche l'inondation, mais c'est là que ça devient fou. Quand un souvenir est jugé trop insupportable, le « moi » ferme complètement les vannes.
Le fameux refoulement.
Oui, l'idée inacceptable est jetée dans l'inconscient. Mais l'énergie, la fameuse quantité Q, elle disparaît pas. Les sources donnent l'exemple d'une patiente hystérique qui voit un serpent noir sortir du mur pour l'attaquer et son bras se paralyse.
Le fameux cas associé à Anao, oui.
Comment cette tuyauterie et ces barrages expliquent-ils l'apparition d'un serpent imaginaire ?
Bah, c'est la preuve de l'implacabilité de cette mécanique. Le moi de cette patiente a bloqué un souvenir atroce lié à son père. Le barrage est là, le refoulement a marché.
L'idée bloquée, ok.
Mais la quantité Q associée à ce souvenir, l'énergie, elle est monstrueuse. Elle ne peut pas s'écouler par la conscience, donc la pression monte. Et elle finit par forcer un autre passage.
Elle explose ailleurs.
Elle reflue carrément vers la perception. La quantité Q va allumer les neurones visuels de manière chaotique. Le cerveau panique, pioche dans des symboles angoissants. Et paf, une hallucination.
Le serpent noir.
Et la paralysie physique, c'est ce qu'on appelle une conversion. C'est l'énergie qui se décharge sur le corps.
C'est fou. Le serpent, c'est juste la vapeur d'un souvenir qui fait sauter une valve.
C'est tout le drame de notre architecture mentale. D'un côté, le processus primaire, l'eau brute qui veut se décharger tout de suite. De l'autre, le processus secondaire, géré par le moi, qui utilise la logique pour construire des digues.
Mais maintenir ces digues, surveiller cette prison haute sécurité, ça doit pomper une énergie phénoménale.
Ah oui, c'est un effort épuisant au quotidien.
Et le gardien ne peut pas rester éveillé éternellement. Ce qui nous amène à la nuit. Quand on dort, le moi relâche sa garde. L'eau s'infiltre, les prisonniers s'échappent et ça donne des rêves.
Les rêves, la voie royale de l'inconscient.
Et les sources sont catégoriques. Tout rêve est un accomplissement de désir, sans exception. D'ailleurs, il y a cet exemple hilarant dans les documents, le rêve de commodité.
Ah oui, le rêve du dormeur assoiffé.
C'est ça. Le gars a très soif en dormant et au lieu de se réveiller pour boire, son cerveau lui fabrique un rêve où il boit de grandes gorgées d'eau fraîche.
Juste pour sauver le sommeil.
Exactement. Le but, c'est de satisfaire le désir virtuellement pour s'épargner l'effort de se lever. Le triomphe absolu de la paresse biologique.
C'est un exemple génial parce que le mécanisme est limpide. Le contenu manifeste, donc l'histoire dont on se souvient au réveil, est exactement pareil que le contenu latent, le vrai désir caché.
Mais c'est une exception, on est d'accord, hein ?
Complètement. La plupart du temps, le directeur de la prison ne laisse pas tout passer. Il reste une force de sécurité à l'entrée de la conscience. C'est la censure.
La fameuse censure.
Elle exige que les désirs inacceptables ou immoraux mettent un déguisement avant d'entrer sur la scène du rêve.
Et ce travail de déguisement, c'est fascinant. Le texte parle de condensation et de déplacement. Concrètement, ça ressemble à quoi dans le cerveau ?
Bah, imaginons la censure comme un douanier très pointilleux. La condensation, c'est de la contrebande. Le cerveau fusionne plusieurs personnes ou désirs en un seul élément pour passer la douane.
Genre un personnage qui a la tête de mon collègue, les vêtements de mon frère et la voix de mon prof de maths ?
Exactement. Ça satisfait plein de désirs refoulés avec une seule image super économique.
Une compression de fichiers psychiques, quoi.
C'est tout à fait ça. Et le déplacement, lui, c'est un camouflage actif. L'émotion brûlante d'un désir censuré va glisser sur un objet totalement anodin.
Comme quoi, par exemple ?
Bah, vous rêvez d'une simple tasse de café sur une table, mais vous ressentez une terreur absolue en la regardant. Le problème, c'est pas la tasse, elle sert juste de paratonnerre pour une angoisse inavouable.
Et pour construire tout ça, le cerveau recycle tout ce qu'il trouve. Ce que Freud appelle les restes diurnes, ces petits détails de la veille.
Un visage croisé, un article lu vite fait.
Parce que ces trucs-là, ils ont zéro charge émotionnelle, donc le douanier s'en méfie pas. C'est parfait pour servir de costume. Et le cerveau intègre même ce qui se passe pendant qu'on dort.
Oui, les stimuli externes.
Le glossaire parle du célèbre rêve de Maury. Un truc lui tombe sur le cou pendant son sommeil et son cerveau invente instantanément un scénario épique sous la Révolution française qui finit par son exécution à la guillotine.
Et le couperet tombe au moment exact où il se réveille.
C'est dingue ! Ou juste notre cerveau qui intègre la sonnerie du réveil dans le rêve pour grappiller 3 minutes de sommeil en plus.
Le cerveau est un scénariste virtuose. Il perçoit le stimulus et à la vitesse de l'éclair, il écrit l'histoire à l'envers pour que ça ait du sens à la fin.
Ce qui explique pourquoi nos rêves sont si absurdes.
Ouais, ce décalage entre le désir brut et la mise en scène finale, ça crée l'incohérence. Et c'est pour ça qu'on oublie si vite le matin. La censure se réveille et nettoie les preuves de la contrebande.
D'accord, mais là j'ai une grosse objection. Prenons le cas le plus célèbre du glossaire. Le rêve de l'injection d'Irma. C'est un cauchemar médical, non?
C'est le rêve fondateur de la psychanalyse, oui.
Freud regarde au fond de la gorge de sa patiente Irma. Il voit une énorme tache blanche, des croûtes, des structures bizarres. Il y a une seringue sale, un ananas, et même son oncle Joseph qui se fait punir pour une spéculation.
C'est très très confus.
Si le rêve est toujours l'accomplissement d'un désir, en quoi voir la gorge infectée de sa patiente ou son oncle puni, c'est un désir? C'est juste horrible.
C'est vrai que c'est la grande contradiction qui rend la théorie dure à avaler au début. Comment un cauchemar peut être un désir? La clé, c'est la violence de la déformation par la censure.
Le désir est tordu à ce point.
Ah oui, le désir initial est tellement inacceptable pour la morale de Freud qu'il doit être totalement crypté. Dans sa vie éveillée, le traitement d'Irma bloquait, Freud se sentait super coupable.
Il pensait être un mauvais médecin.
Voilà. Et le vrai désir latent de ce rêve très désagréable, c'est pas de voir Irma malade. Le désir de Freud, c'est de se disculper.
Ah, le rêve, c'est un faux tribunal où il veut prouver son innocence.
Ouais.
Mais comment il fait ça avec une gorge infectée?
Par une série de calomnies cachées. Le rêve accuse les autres. La seringue sale, c'est la faute de son ami le docteur Otto. Les croûtes bizarres, ça vise secrètement un autre confrère incompétent.
Et l'oncle Joseph là-dedans?
C'est une condensation. L'oncle Joseph était vu comme un peu simplet dans la famille. Le rêve superpose son visage à celui d'un collègue que Freud déteste. En gros, le rêve dit « mes rivaux sont des imbéciles ».
Donc ce cauchemar médical, c'est une vengeance professionnelle parfaite pour rassurer son moi.
Exactement. Le désir de se venger frappe tellement fort que la censure crée une image angoissante. Et parfois, le moi panique tellement devant cette violence qu'il déclenche le réveil.
Mais si cette pression souterraine, si cette quantité Q arrive à tromper la censure la nuit, qu'est-ce qui se passe quand l'énergie est tellement monumentale qu'elle déborde le jour?
Quand les barrages tiennent, mais que le rêve suffit plus, vous voulez dire?
Ouais, si l'énergie sexuelle, par exemple, peut assortir, elle va où?
Et c'est là qu'on arrive à notre troisième chapitre, le miracle de la sublimation, étudié par Freud chez Léonard de Vinci.
Ah, Léonard, c'est vraiment le chef-d'œuvre de la pathographie freudienne. Il faut garder notre règle d'or en tête. L'énergie d'une pulsion n'est jamais détruite, juste bloquée ou déviée. Et chez Léonard, l'énergie est peu massivement bloquée. Les biographes de l'époque notaient déjà son apparente frigidité, son absence de vie sexuelle active, malgré des soupçons d'homosexualité réprimée.
Freud pose le diagnostic d'un refoulement radical de la libido. Mais au lieu de faire des crises d'hystérie, cette énergie colossale a été sublimée. Elle a alimenté un autre moteur.
Une insatiable soif de connaissance.
Oui, une pulsion d'investigation scientifique incroyable.
C'est fou. L'énergie sexuelle qui veut d'habitude connaître physiquement l'autre, elle est détournée pour connaître les lois de la physique, de l'anatomie.
C'est tout le concept de la sublimation.
Mais pourquoi cette obsession très spécifique pour les oiseaux, le vol ou certains visages féminins? Les carnets de Léonard parlent d'un premier souvenir d'enfance, dans son berceau. Un vautour serait descendu lui ouvrir la bouche avec sa queue.
Une image très violente pour un bébé.
Pourquoi Freud s'attarde sur un vautour?
Parce que Freud a enquêté. Il a découvert que dans la mythologie égyptienne antique, que Léonard connaissait, le vautour est le symbole absolu de la mer. On croyait même qu'il n'existait que des vautours femelles, fécondés par le vent.
Le symbole de la mer vierge.
Voilà, Freud décode cette attaque du vautour comme un souvenir écran. C'est l'inconscient adulte qui érotise un vieux souvenir innocent, celui de l'allaitement et des baisers très passionnés de sa mère biologique, Katerina.
Katerina qu'il a élevée seule au début, parce que c'était un enfant illégitime abandonné par son père.
Ce huis clos mère-fils a scellé son destin psychique.
Et ça a carrément impacté l'histoire de l'art. En lisant ça, j'ai vu que le célèbre sourire de la Joconde, Mona Lisa, ça serait pas juste une technique de peinture.
C'est bien plus que du sfumato, oui.
Ce serait une résurgence de ce passé. Léonard aurait passé sa vie à essayer de recréer inconsciemment le sourire tendre de cette mère perdue.
Et le glossaire va encore plus loin. Il y a cette découverte folle du psychanalyste Oscar Pfister sur le tableau de la Sainte Anne du Louvre.
La fameuse image de Vinette.
La cryptolalie, oui. Si on regarde bien les plis bleus des vêtements de la Vierge, on distingue la silhouette exacte d'un vautour caché, dont la queue pointe vers le visage de l'enfant Jésus.
C'est vertigineux de lire ça. Et son rapport à son père, alors? Parce qu'il a fini par vivre avec lui.
Le complexe paternel a fait de lui un pionnier de la science. Il s'est rebellé contre l'autorité de ce père distant, intellectuellement. Ça a donné un rejet total des dogmes de l'Église.
Il voulait tout vérifier par lui-même, l'expérience pure.
Mais cette rébellion a eu un prix. Rivaliser avec le père, c'est refuser de terminer l'œuvre. C'est pour ça qu'il a abandonné tant de chefs-d'œuvre en cours de route.
Le monument Sforza, l'adoration des mages, c'est pathologique à ce niveau-là. Et il y a aussi ce truc de l'instinct de jeu. Au sommet de sa gloire, il fabriquait des petits animaux en cire qu'il faisait voler pour amuser la cour.
C'est la même énergie infantile qui refusait de grandir.
Ouais, alors là, il faut quand même que je fasse l'avocat du diable. Freud va pas un peu trop loin. Voir un vautour caché dans les plis d'une robe du XVIe siècle, c'est pas de la pareidolie pure.
Vous voulez dire voir des formes dans les nuages pour arranger sa théorie ?
Exactement. Et d'ailleurs, les sources mentionnent des erreurs. Reitler a trouvé une erreur anatomique flagrante dans un croquis sexuel de Léonard, qui contredit l'idée de son dégoût de la chair. Et l'histoire de son académie à Milan a été démontée. C'était une légende.
C'est une objection indispensable. Le travail à distance comporte d'immenses angles morts. Et Freud s'est parfois trompé sur les faits historiques. Mais il faut comprendre le but de la pathographie.
Qui n'est pas de détruire le mythe du génie, si je comprends bien.
Non, Freud avouait que la psychanalyse dépose les armes face au mystère pur du talent. Le but, c'est de montrer que les mêmes lois biologiques, la même quantité Q qui bloque un névrosé ou crée nos rêves débiles, opèrent chez un génie universel.
C'est la même tuyauterie pour tout le monde.
Ce sont ces fixations infantiles très spécifiques qui ont canalisé son énergie colossale vers l'anatomie, le vol des oiseaux et ce sourire insaisissable. Le génie obéit à la mécanique mentale.
Et ça nous amène à la fin de notre parcours d'aujourd'hui. On est parti des neurones traversés par cette énergie aveugle, la quantité Q qui fuit l'attention. On a vu les barrages du moi et le refoulement.
Le refoulement qui s'infiltre la nuit, les pulsions qui se déguisent par condensation et déplacement pour tromper la censure, créant le théâtre de nos rêves.
Et enfin, cette même énergie sublimée qui transforme les traumatismes d'un petit garçon en révolution artistique et scientifique.
Et je pense que la conclusion, c'est que cette plomberie, c'est pas une antiquité viennoise du 19e siècle. C'est nous. L'esprit humain, le ceux qui nous écoutent, fonctionne sur cette matrice. On a un maître faussaire dans le crâne. Un faussaire qui bosse jour et nuit pour crypter nos désirs.
Ce qui pose une question vraiment vertigineuse pour finir. Si la passion scientifique de Léonard et le sourire de la Joconde viennent du fantasme crypté d'un oiseau et d'une mère absente...
Oui.
Quel petit souvenir d'enfance absurde et totalement oublié, caché dans notre propre inconscient, a peut-être mis son meilleur costume pour dicter secrètement nos choix de carrière ou nos angoisses aujourd'hui. La porte de la prison a beau être fermée, les prisonniers sont peut-être déjà dehors, juste là, sous nos yeux.